Un homme de 40 ans condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie. Il avait tué sa compagne après une violente dispute à Nouméa en 2022. Les 18 conseillers jeunes de Dimbéa faisaient leur rentrée ce samedi. Ils étaient réunis pour la première séance plénière de l'année, l'occasion de présenter les projets pour 2025. Le salon Habitat Déco continue à Nouville. Près de 140 exposants sont regroupés pour mettre en avant leur travail artisanal. Demain, Farino accueillera la première fête du jardin de l'année. 200 rassemblements annoncés un peu partout en France pour des manifestations contre le racisme et le fascisme. On craint des débordements dans plusieurs villes et notamment à Paris. La peine maximale pour le terroriste islamiste Mehdi Nemmouche, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour avoir séquestré 4 otages français, 4 journalistes en Syrie. Le sport et la Formule 1 et Lewis Hamilton sur Ferrari qui remporte la première course sprint de la saison sur le circuit de Shanghai. Il a devancé Max Verstappen et Oscar Piastri. Et puis les trailers sont réunis en ce moment pour le Nea City Trail. Les participants s'élancent sur des parcours mis en place au départ des boucles de Tina. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal Actualité judiciaire pour commencer. Et le dernier procès de la première session de l'année de la Cour d'assises de Nouvelle-Calédonie s'est terminé en début d'après-midi. Depuis mercredi, la Cour jugeait une affaire de meurtre sur conjoint. C'est un homme de 40 ans qui était dans le box des accusés pour avoir tué sa compagne après une violente dispute en juillet 2022 à Nouméa. Il a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Les jurés ont suivi les réquisitions du ministère public et qui avait requis ce matin une peine de 20 à 22 ans de réclusion criminelle. 2 à 3 autres sessions d'assises devraient être organisées d'ici la fin de l'année afin de rattraper le retard accumulé l'an dernier en raison des émeutes. Et puis au chapitre des faits divers, la circulation a été fortement perturbée cet après-midi à Dimbéa. Un accident de la route est survenu sur la RT1 juste avant le col de Tongoué, en face de la supérette Le Colibri aux alentours de 14h30. Un véhicule roulant vers Nouméa pour une raison inconnue dévié sur la voie de gauche et percuté frontalement une voiture qui arrivait en face. Le conducteur du véhicule en cause de l'accident est grièvement blessé. Son pronostic vital est engagé ce soir. Il était seul à bord du véhicule. Les 2 autres personnes à bord de la voiture percutée sont légèrement blessées. Elles ont été envoyées au Medipôle par précaution. La voie a dû être entièrement coupée le temps de l'intervention des secours et une déviation a été mise en place. Les élus du conseil municipal de Bouloux-Paris réunis hier soir à l'ordre du jour l'adoption du budget primitif 2025 de la commune. Un budget de 950 millions de francs qui est en baisse de 7% par rapport à l'exercice précédent. Écoutez Pascal Vittori, le maire de Bouloux-Paris.
On attend pour bientôt donc les aides de l'État. Et donc si on obtient ces aides de l'État dès le mois de mai, on fera une décision modificative et ça va nous permettre de continuer nos prestations. On avait du mal justement à financer jusqu'à la fin de l'année les prestations d'espace vert et les prestations de transport scolaire pour les enfants. Et donc grâce à l'aide de l'État, on va pouvoir rétablir ça assez rapidement. Et puis surtout, on continue les investissements. On prévoit encore cette année d'emprunter 50 millions pour poursuivre nos investissements. On a démarré donc début mars la construction de notre base nautique sur la plage de Bouraquet. On a démarré également l'agrandissement de notre marché communal à Bouloux-Paris. On s'apprête à lancer les travaux du parc de jeux pour enfants au centre du village de Bouloux-Paris. On doit également rénover le wharf de Tomeau qui a été endommagé par les intempéries. Et puis on doit travailler sur nos routes, la réalisation du point Tatan et puis surtout des travaux de structure puisqu'il y a 2 ans on a eu beaucoup de pluie qui ont endommagé nos routes et donc on a des travaux de structure à faire sur nos routes.
Et le prochain conseil municipal sera consacré aux problématiques liées à la sécurité sur la commune. La commune de Bouloux-Paris qui organisait ce matin sa journée des droits des femmes à la salle d'honneur de la mairie. Au programme de la matinée, une série de conférences et d'échanges autour notamment de l'entrepreneuriat. Naya Wateou, présidente de la commission développement économique à la province sud.
Bouloux-Paris ce matin est un exemple flagrant et hyper positif de démarches d'entrepreneuriat qui se développent qui réussit, qui fédère aussi et autour de beaucoup de secteurs d'activité. C'est aussi ça, je trouve, qui est assez intéressant. On est sur de l'artisanat, on est sur du commerce, on est sur de l'ingénierie. Il y a une vraie diversité économique qui est en train de s'opérer aux portes de la capitale. C'est tout aussi important d'être présent ici pour l'accompagner et la soutenir. On a des métiers qui sont très spécifiques et qui aujourd'hui sont représentés par des femmes qui font la démarche de venir présenter leur passion, parce qu'on est aussi vraiment sur des métiers passion. C'est ce que je retiens de cette matinée. Oui, il y a cette volonté de pouvoir continuer à amorcer une démarche de reconstruction. Et ça fait du bien aussi d'en parler. On est très focalisé sur le 13 mai et ses conséquences. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont envie d'avancer. Il y a des femmes qui ont envie de reconstruire. C'est important d'être là pour les soutenir et ça fait du bien.
Naya Wateo, micro Radio Rythme Bleu de Kalinda Boikou. La lutte contre les tags et le décrochage scolaire, ce sont les thématiques retenues cette année par le Conseil des jeunes de Dimbéa. Il tenait ce samedi sa première assemblée de l'année, Michael Juneski.
Une séance plénière à l'hôtel de ville de Koutio, en présence du maire et des élus, pour les membres de cette instance de la commune de Dimbéa qui vise à mettre en place des actions à l'initiative des jeunes et destinées aux jeunes. Dylan et Filianga, 18 ans et 17 ans, sont membres de ce Conseil des jeunes de Dimbéa.
D'abord, c'était l'occasion de faire un point sur les actions qu'on avait réalisées et justement les actions que nous, on va réaliser en cours de l'année.
Notamment le premier temps fort qui va arriver en fin d'avril avec la fête de la ville de Dimbéa qui va se dérouler au Parc Fayard, où il y a aussi le World Cleanup Day qui va intervenir en septembre, où le CJD et différents établissements scolaires vont chercher une coopération pour intervenir dans divers endroits pour nettoyer la ville et donner une image de la commune de Dimbéa comme une ville verte.
On essaie de chercher les thématiques qui sont les plus adaptées à notre réalité et au regard de ce qui s'est passé l'année dernière, des actions qui sont essentielles pour la jeunesse.
Vous aimeriez bien, finalement, que le Conseil des jeunes de Dimbéa soit plus connu?
C'est très important de se faire connaître auprès de la jeunesse pour par la suite les mobiliser. Et comme l'a dit Monsieur le maire, le Conseil des jeunes de Dimbéa est encore un organisme jeune.
Clairement, je vois qu'on n'est pas assez connu au niveau de la visibilité. Nous, en fait, l'objectif, ce serait de promouvoir, pour inciter aussi les jeunes à être conscients qu'on est une jeunesse construite et il faut s'engager.
Le Conseil des jeunes de Dimbéa célébrera cette année ses 10 ans d'existence. Écoutez le maire de la commune, Johan Lecourieux.
C'est bien de voir au cours de cette première plénière tous ces conseillers de la jeunesse de Dimbéa s'impliquer dans la vie de la commune avec une programmation de leur action, de participation à différentes manifestations organisées par la ville, mais aussi la volonté de faire 2-3 opérations majeures pour fêter leurs 10 ans d'existence du Conseil des jeunes de Dimbéa. Donc c'est vraiment une belle réussite.
Le Conseil des jeunes de Dimbéa compte 18 membres âgés de 13 à 22 ans.
Le Sénat coutumier a organisé son deuxième forum du Livre blanc des quartiers populaires aujourd'hui. Le but, créer un espace de dialogue entre les acteurs locaux, les institutions et les citoyens sur les thématiques de l'économie solidaire et des initiatives de terrain. Victor Gogny est le porte-parole du Sénat coutumier.
Victor Gogny, ce matin, toute la journée en fait, il y avait ce deuxième forum du Livre blanc.
Un petit souci technique sur ce sujet, nous en reparlerons demain dans notre édition de 7h. Notez qu'un troisième forum est prévu avant la restitution des documents de synthèse. La culture et les identités seront à l'ordre du jour. 17h53, on va marquer une première pause dans ce journal.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Et la suite journal avec vous, Lionel Sabot.
Trois semaines après la fin du salon de l'agriculture à Paris, un apiculteur de l'IFOU a reçu officiellement sa médaille d'or remportée au concours agricole national des miels. Paul Nekoen, fondateur de la Caisse du Miel, avait été primé dans la catégorie miel tropical foncé. Aujourd'hui, une cérémonie était organisée au marché de Gros de Ducos pour la remise de cette distinction. Écoutez Paul Nekoen, un apiculteur forcément heureux.
C'est toujours le rêve des producteurs d'avoir cette belle récompense. On dit toujours le meilleur label pour un produit, c'est d'être récompensé dans un grand salon international de renommée. 70% des miels de l'IFOU est déjà primé chaque concours local. C'est aussi grâce à la biodiversité. Il y a aussi beaucoup de bons miels ici sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un très bon produit. On a aussi le travail aussi des apiculteurs, qui a un savoir-faire qu'il faut continuer à préserver. Aujourd'hui, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est vraiment un marché à l'export qui va pouvoir vraiment faire sortir au niveau de la filière miel de la Nouvelle-Calédonie.
La médaille d'or du concours agricole national a été remise par le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, dont Christophe Niotou, qui avait fait le déplacement dans la plus grande ferme du monde à Paris. C'est un atelier de remise en selle 100% féminin qui était organisé ce matin à la gare maritime de Nouméa. En 2025, l'association Droit au vélo s'est engagée pour favoriser la mobilité des femmes. Des bénévoles ont accompagné quelques cyclistes dans leur reprise du vélo, Charlotte Coulson.
Un atelier qui a ramené pas mal de monde ce matin, 8 participantes à vélo. L'objectif des membres de l'association a été atteint pour cette première édition. Le but était simple, aider les femmes à se mettre ou se remettre en selle. On écoute les précisions de Carole Antoine. Elle est membre active de l'association Droit au vélo.
On a fait une opération spécifiquement pour les femmes parce qu'aujourd'hui, les comptages que réalise l'association, on voit qu'il y a beaucoup moins de femmes en vélo. Il y a à peine 20% de femmes sur ce qu'on appelle les vélo-taffeurs, les personnes qui utilisent le vélo au quotidien pour aller au travail, alors que dans l'Hexagone, si on fait le comparatif, c'est 35%. Donc il y a une grosse marge de progression. C'est tout nouveau, on ne savait pas trop comment ça allait réagir et on a la chance d'avoir 8 participantes. C'était le nombre qu'on souhaitait pour ce premier atelier, donc on est très très contents du résultat.
Et pour remettre en selle les cyclistes, les bénévoles ont fait quelques rappels sur les équipements de sécurité du vélo, puis ont organisé des exercices de maniabilité avant une mise en situation sur la route et dans le groupe des cyclistes débutantes ou aguerries.
Allez, on accélère et on freine.
Je suis là pour apprendre les différentes techniques pour mieux rouler à vélo dans la ville, notamment les freinages, en fait, en côte, des choses comme ça. Parfois, interagir avec les autres voitures, c'est pas évident.
Mais en fait, j'ai voulu tester parce que ça fait un petit moment que j'ai envie de me remettre au vélo, donc c'était l'occasion. Les petits déplacements autour de la maison, pourquoi pas. Et puis, bien sûr, le sport aussi. Ben là, en fait, on est en train d'essayer des réflexes parce que quand on sera sur la route, ce sera beaucoup moins facile et mais évident parce qu'on a perdu un petit peu nos habitudes. Donc là, c'est les freinages rapides, voilà, ce genre de choses.
Oui, moi, je trouve que c'est bien parce que ça permet à certaines femmes qui peut-être n'en font pas ou n'ont pas confiance, ben de justement prendre confiance, d'apprendre des choses et puis peut-être après de se lancer.
Et le prochain atelier, Elle en selle, se tiendra le 17 mai. En parallèle de cet événement, la journée de l'écomobilité était organisée à la Maison de la Biodiversité à Sainte-Marie. Les cyclistes ont pu profiter d'une bourse au vélo, d'ateliers d'autoréparation et sont en ce moment même en train de visionner un film intitulé « La nouvelle aventure mobile » sur les modes de transport alternatifs.
La solidarité prime au lycée, Jules Garnier, des jeunes du lycée ont rejoint l'association LJG Solidaire dans une collecte de denrées alimentaires organisé ce matin à Géant-Sainte-Marie, Charlotte.
C'est d'un constat malheureux que part cette initiative, celui que la précarité augmente chez les jeunes du lycée, les élèves comme les étudiants. En 2023 déjà, la ressourcerie de l'établissement scolaire était créée pour permettre de fournir les lycéens en fourniture, en nourriture et en vêtements. Le besoin semble s'être accru cette année. Des élèves de lycée et de BTS se sont donc portés ambassadeurs solidaires pour mener à bien cette collecte de produits de première nécessité. Orlane est l'une d'entre eux. Elle est étudiante en deuxième année de BTS.
J'ai voulu être ambassadrice, c'est pour aider un peu les profs et nous aider entre nous. Et en ce moment, il y a beaucoup de précarité due à la crise et aux émeutes aussi, à tout ce qui s'est passé. Surtout vis-à-vis des transports, tout ça, comme j'ai des camarades de classe qui ont du mal à payer leurs fournitures. Tout ça, comme ils gardent leurs pièces pour prendre le transport et comme c'est devenu cher aussi. Les dons qu'on va récolter grâce à ces collègues, ça va servir à aider les élèves et les gens du lycée, ceux qui sont dans le besoin, tout ça, ceux qui manquent d'argent pour aller faire leurs courses ou leurs fournitures scolaires.
Un appel à la solidarité qui a été entendu des Calédoniens, puisqu'ils sont plusieurs à être ressortis du Géant Sainte-Marie avec quelques sacs pour les jeunes du lycée Jules Garnier. Les membres du collectif ont pu remplir une dizaine de cartons ainsi que deux caddies de supermarché. Les assistantes sociales et les professeurs principaux du lycée auront ensuite la charge d'identifier les élèves en grande difficulté pour leur distribuer des paniers faits à partir des denrées récoltées.
Les artisans mobilisés pour relancer l'économie locale. Le salon Habitat Déco a débuté hier à Nouville. Près de 140 exposants du secteur de l'aménagement intérieur et extérieur proposent leurs produits à la vente. Designers, professionnels de la construction, jardiniers, décorateurs et tant d'autres professionnels qui ont vu leur activité cesser brutalement le 13 mai. Aujourd'hui, le secteur du BTP peine à se relever. Pour autant, les professionnels ne baissent pas les bras. Pour Christophe Chabroux, le gérant de l'Enrobé du Caillou, ce salon est une opportunité pour relancer son activité.
Alors jusqu'à quelques mois, pour ma part, c'était pas plus compliqué que ça, parce que j'avais un portefeuille qui était assez bien rempli. Mais là, depuis un mois à peu près, c'est la chute totale. Donc on essaie de survivre aujourd'hui, tant bien que mal, et de maintenir à flot les sociétés, mais bon, c'est très très compliqué. Alors aujourd'hui, ce salon, c'était une opportunité. C'est une carte que j'essaie de jouer, pour essayer de me faire voir, de me faire connaître, d'apporter donc des renseignements sur les gens qui seraient susceptibles de vouloir faire des aménagements extérieurs. Et puis, ne serait-ce que distribuer quelques cartes et quelques flyers, ça peut peut-être donner des idées à certaines personnes. Et puis au moins essayer de me faire connaître un petit peu plus et puis de développer un petit peu notre activité.
Et vous pourrez encore profiter du salon Habitat Déco demain matin de 9h à midi. C'est à la Maison des Artisans à Nouville. À Farino, c'est demain que se tiendra la première fête du jardin de l'année de 7h à midi sur la place de la mairie. Amoureux des plantes et curieux de nature, vous pourrez découvrir les trésors de Farino, plantes rares, orchidées, arbustes parfumés, bougainvilliers, palmiers, toute une biodiversité donc à explorer, à admirer et à voir pourquoi pas dans son jardin. Écoutez Ghislaine Arly, responsable du marché de Mamie.
Il y aura la première fête de jardin de l'année. Donc, comme d'habitude, plusieurs stands seront en place, hein, des pépiniéristes, des particuliers qui viendront vendre leurs très belles plantes. Et nous aurons aussi quelques stands de produits du terroir du marché de Mamie de Farine. Alors, il y a bien sûr toujours toutes les plantes vertes habituelles. Il y aura des palmiers, des plantes à fleurs en ce moment. Hein, donc, généralement, on met donc en vente les plantes que l'on voit un peu partout. Ça incite les gens à les acheter. Donc en ce moment, il y a des bougainvilliers, il y a encore des arbres à fleurs qui sont fleuris de part et d'autre. Et puis, bien sûr, toujours des palmiers, toujours des orchidées, toujours des arbres endémiques, des afruitiers. Voilà, et donc je l'espère, des plants de légumes parce que c'est la saison de commencer à planter les légumes là, en ce moment. Donc c'est très recherché, les plants de légumes.
Et la fête du jardin, c'est de 7h à midi. Demain, sur la place de la mairie de Farino. Il est 18h02, on marque une nouvelle pause dans le journal. Vous restez avec nous dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Savez-vous que des appareils propres utilisent moins d'énergie ? Pensez à nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte de votre lave-vaisselle et à dépoussiérer régulièrement la grille de votre frigidaire ainsi que vos lampes et luminaires.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Lionel Sabot.
Et l'actualité en métropole avec 200 rassemblements annoncés un peu partout en France pour des manifestations contre le racisme et le fascisme à l'appel de la France insoumise et de plusieurs collectifs de gauche et d'ultra-gauche. Des rassemblements et une crainte, celle de voir des débordements dans plusieurs villes et notamment à Paris où les effectifs de police ont été spécialement renforcés. William Molinier pour Europe 1.
Les policiers qui avaient posé des repos ont été rappelés en service. Le renseignement parisien table sur une participation entre 10 000 et 20 000 manifestants. Surtout, il y a un risque de déambulation sauvage, des dégradations qui pourraient être commises tout au long du cortège par des militants antifascistes ou des individus issus de la mouvance contestataire violente. Les patrouilles de police ont démarré dès hier soir à proximité du parcours de la manifestation et depuis ce matin, les forces de l'ordre investissent les grands axes stratégiques et les gares parisiennes. Leur mission, fouiller les sacs et procéder à des contrôles d'identité. Il leur est demandé d'être particulièrement vigilants afin de détecter toute personne susceptibles d'avoir sur elles des explosifs artisanaux, des mortiers d'artifice ou encore des objets pouvant être utilisés comme une arme. D'autres renforts sont attendus, notamment des CRS et des escadrons de gendarmes mobiles. La dispersion de la manifestation est prévue en début de soirée au niveau de la place de la Nation.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Des manifestations sur fond de polémique. La France insoumise a publié, vous le savez, pour appeler ses soutiens et militants à manifester, une affiche avec le visage de l'animateur Cyril Hanouna, affiche au relent antisémite. LFI a été condamnée par la justice pour atteinte au droit à l'image, mais le parti a fait appel. Une procédure est également en cours au pénal sur le volet antisémite du visuel qui a été retiré des réseaux sociaux. Dans l'actualité également, à la fin du procès dit des otages de Daesh, Medine Mouche était dans le box des accusés et avant que la cour spéciale de Paris ne se retire, il a déclaré, et je cite, « Oui, j'ai été un terroriste et je ne m'en excuserai jamais ». Fin de citation. Le terroriste islamiste a finalement été condamné à la peine maximale, réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Le djihadiste était notamment accusé d'avoir été le geôlier de 4 journalistes, dont Didier François, ancien journaliste d'Europe 1. Didier François soulagé à l'issue de l'audience.
Ce procès, il a été exceptionnel. Il a donné la parole à tous nos camarades qui ne sont pas revenus. Rappelez-vous cette lettre extraordinaire, le testament, en fait, de John Cantley qui a été lu à la barre. Tous nos camarades européens, américains, britanniques qui ne sont pas revenus ont pu s'exprimer. Les Syriens ont pu être entendus. Pourquoi on a porté témoignage aussi fortement? C'est pour raconter que ce qu'ont vécu au quotidien les Syriens face à l'État islamique, c'était au-delà. Franchement, on a réussi à porter leur voix au-delà de notre camp.
Didier François, ancien journaliste d'Europe 1, a noté que Medine Mouche avait déjà été condamné à la perpétuité par la justice belge cette fois-ci pour l'attentat du musée juif de Bruxelles. C'était en 2014. Le démantèlement d'un réseau international de passeurs de migrants. Démantèlement après une enquête de plus de 2 ans menée par la police aux frontières. 19 personnes ont été interpellées à Marseille, à Perpignan, mais aussi en Espagne. Toutes ces personnes sont soupçonnées d'avoir organisé plusieurs réseaux de trafic de migrants. Réseau tentaculaire et très bien organisé. Mélina Pavan pour Europe 1.
Le réseau s'articulait en plusieurs cellules de chaque côté de la Méditerranée. Dans un premier temps, les passeurs organisent entre la Catalogne, Perpignan et Marseille le passage de la frontière espagnole en voiture, entre 150 et 300 euros par clandestin, explique le procureur de Marseille.
Avec des personnes migrantes, majoritairement de nationalité algérienne, et on a vu des convois qui sont allés jusqu'à Toulouse, Narbonne, Montpellier, Marseille et plus anecdotiquement jusqu'à Paris et même en Allemagne.
Un trafic humain très lucratif basé sur la corruption. Un hôtel de Perpignan est mis en cause. Il logeait des migrants contre un bakchich. Le réseau s'est ensuite développé avec la création d'une équipe chargée de faire passer des migrants en Espagne par bateau depuis l'Algérie. Et là aussi, la corruption.
Avec, disent les personnes dans le cadre de la procédure, une corruption de la marine algérienne pour les laisser passer de 18 000 euros par passage.
Selon le procureur, ce réseau de passeurs aurait fait entrer plus de 1 700 clandestins en France. Marseille, Nina Pavan, Europe 1.
L'actualité à l'étranger avec cette nouvelle conférence de presse de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président américain a présenté le futur avion de chasse de l'US Air Force, le F-47, un avion de 6e génération qui devrait remplacer les F-22. Personne ne pourra rivaliser avec cet appareil, a déclaré Donald Trump. La construction de ce futur avion a été confiée à la société Boeing. Le budget du programme F-47 avoisine les 100 milliards de dollars. Les premiers avions devraient rentrer en service actif d'ici 2030. Écoutez Claude Moniquet, spécialiste du renseignement.
C'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de concurrence. Apparemment, les Russes ne sont pas prêts. Ils travaillent sur un projet. Les Chinois sont effectivement sur les rangs avec un programme qui devrait voir le jour d'ici en 2035. Mais il y a d'autres concurrents. Il y a un programme qu'on appelle le programme Tempest, qui est un programme occidental avec le Royaume-Uni allié au Japon et à l'Italie, avec la Suède qui a un statut d'observateur. Il y a un projet franco-espagnol. Allemand, le NGF, le Next Generation Fighter. Il y a pas mal de concurrence et en fait la question c'est un peu à celui qui arrivera, en tout cas dans le camp occidental, le premier à produire un appareil.
Claude Moniquet, spécialiste du renseignement. Il est 18h09, on va marquer une dernière pause dans ce journal. À suivre le sport et la météo.
Pour Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite du journal et tout le sport, Lionel Sabot.
Et à la une de l'actualité sportive, la Formule 1 avec le Grand Prix de Chine.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et la première sensation du week-end, c'est la victoire, la belle victoire de Lewis Hamilton sur la course sprint à Shanghai, Michael Juneski.
Et c'est donc le tout premier succès du Britannique pour sa nouvelle écurie Ferrari. Il a décroché la victoire sur cette première sprint race de la saison. Le pilote de la Scuderia avait déjà marqué les esprits en signant la pole position en vue de cette épreuve. Il a devancé la McLaren d'Oscar Piastri et la Red Bull de Max Verstappen. George Russell sur Mercedes se classe quatrième devant l'autre Ferrari piloté par Charles Leclerc. Le monégasque qui va devoir cravacher pour ne pas devenir en quelque sorte le numéro 2 de la Scuderia cette saison en cas de retour au plus haut niveau de sa majesté Lewis Hamilton, septuple champion du monde, resté dans l'ombre après plusieurs saisons sur une Mercedes qui n'était plus apte à tenir la cadence. Pour l'anecdote, jamais un pilote Ferrari n'avait encore signé le moindre succès dans l'exercice de la Sprint Race, introduit, on le rappelle, dans le championnat du monde de F1 depuis 2021. Alors cette fois, la Scuderia débute vraiment son championnat avec une première après la première en Australie où les deux coureurs des monoplaces avaient rendu une mauvaise copie. Leclerc 8e, Hamilton 10e à Melbourne. À Shanghai, la Scuderia veut prendre un nouveau départ alors que la concurrence sera rude cette année. On signalera encore à l'issue de cette course sprint que les Français Pierre Gasly, Isaac Hadjar et Esteban Ocon se sont classés respectivement 12e, 13e et 16e. En ce moment même, les pilotes disputent les qualifications en vue de la course. Ce sera ce dimanche, cette fois, le départ du Grand Prix de Chine sera donné à 18h demain soir pour nous.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Des sports mécaniques encore tout terrain, cette fois-ci avec le rallye du Kenya.
Le Gallois Finn Evans qui occupe la tête du classement à l'issue des 10 premières spéciales devant son coéquipier chez Toyota, le Finlandais Kalle Rovanperä. Il reste encore 11 spéciales à courir tout au long du week-end sur les pistes kenyanes pour cette troisième manche du championnat du monde.
L'actualité du rugby à présent et honneur aux dames, c'est ce soir le début du tournoi des 6 nations féminins.
Oui, autour des Françaises d'entrer dans la mêlée. Le 15 de France dames qui disputera son premier match de cette édition 2025. Les Françaises ouvriront le bal sur les terres des Irlandaises une semaine après le triomphe des Bleus et des Bleuets. Les féminines qui espèrent que leur compétition sera autant suivie, comme le dit la demi-mêlée Pauline Bourdon-Sansu.
C'est encore un combat, on continue à travailler pour justement avoir la visibilité, que les partenaires s'intéressent aussi à nous. Et on a besoin aussi d'avoir un peu plus de moyens pour peut-être s'entraîner un peu plus en journée. Enfin, voilà, même si le stade a fait beaucoup d'efforts sur ça, sur la structuration de l'équipe féminine. Mais voilà, on se bat encore et y a encore un long chemin à faire, mais on est sur la bonne voie en tout cas.
Écoute, on voit de la rencontre Irlande-France à minuit ce soir. Dans cette compétition, les grandes rivales des tricolores sont les Anglaises. Elles débuteront de leur côté le tournoi face aux Italiennes lundi matin.
Du rugby encore chez les messieurs, cette fois-ci avec la reprise du championnat de France. Les clubs se retrouvent dès ce soir pour la 19e journée du top 14.
Ça commencera par une rencontre La Rochelle-Castres à minuit 30, puis à 2h30 du matin en simultané, Clermont sera opposé au Racing 92, Lyon fera face à Vannes, Pau recevra Montpellier et le Stade français accueillera Bayonne. À 7h05, Toulon affrontera Perpignan. Lundi matin, on aura droit au choc au sommet entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain.
De l'athlétisme avec un titre mondial pour une Française.
Oui, Marie-Julie Bonin est devenue cet après-midi championne du monde de saut à la perche en Chine à l'occasion des mondiaux indoor. Elle a égalé au passage le record de France, 4,75 m. La Bordelaise de 23 ans a devancé dans le concours la Sloventina Sutej et la Suissesse Angelika Moser. Marie-Julie Bonin est entrée dans l'histoire en devenant donc donc la première perchiste française à remporter un titre mondial.
Le tennis et des tricolores qui sont encore en course au Masters 1000 de Miami.
Ouais, dans le deuxième tour ce soir, Giovanni Mpechi-Pericard sera opposé à l'Australien Jordan Thompson, puis Hugo Humbert fera face au Brésilien Jean Fonseca. Hugo Gaston sera lui opposé à l'Italien Matteo Berrettini et Arthur Fils au Canadien Gabriel Diallo. Je rappelle que Gaël Monfils a décroché sa qualification pour le troisième tour en battant le Tchèque Jiří Leka en trois manches.
En cyclisme, une classique au menu de votre soirée, le Milan-San Remo. Il s'agit du premier monument de la saison. Le peloton de 170 coureurs sera au départ de cette 116e édition, longue de 289 km. Le Slovène Tadej Pogacar fait figure de favori. Le départ de la Primavera sera donné à 20h25, heure de Nouméa. Et puis, il faisait partie des monuments de la boxe. On a appris la disparition de l'Américain George Foreman, ancien champion du monde des poids lourds et connu pour avoir été le grand rival de Mohamed Ali. Il avait été également le plus vieux boxeur à décrocher un titre mondial. C'était en 1994. George Foreman s'est éteint à l'âge de 76 ans. On en vient au sport en Calédonie avec le Nea City Trail qui se dispute en ce moment, Michael.
Oui, les départs pour les plus longs parcours ont été donnés en fin d'après-midi. Des centaines de participants au rendez-vous à Tina dans un esprit fun avant tout. Un grand show de lumière et des animations concoctées en nocturne pour les coureuses et les coureurs. Julie Prunet de Pro Events a vu les choses en grand pour cette 5e édition.
C'est vrai que c'est un événement où on essaye d'avoir le maximum d'animation et on voulait vraiment mettre des paillettes dans les yeux des Calédoniens. C'est vraiment découvrir d'une autre manière les boucles de Tina dans une ambiance de folie. C'est un gros événement qu'on a toujours voulu faire évoluer et cette année on s'est dit on le fait évoluer et on a encore mis le paquet sur tout ce qui est animation.
Et sur le parcours de 15 km, ça a été très vite pour les meilleurs. Jérémy Marikia a décroché la victoire devant Simon Robin et Ludovic Lanceleur. L'épreuve continue dans une ambiance festive en partenariat avec RRB.
Un coup d'œil au reste du sport en bref.
En kitesurf, la deuxième étape du challenge Bureau-Vallée qui se déroulait à Nouméa. On soulignera les victoires chez les jeunes de Raphaël Vamin devant Ethan Joly et Sina Balouch qui se classe 3e. Le meilleur des moins de 15 ans, Taoua Ateritao, a terminé 4e. En open, c'est Tom Hébert qui s'est imposé devant Phoebe Rocher et Guillaume Taberlé. Prochaine manche prévue le 19 avril. Encore du badminton tout le week-end, la Coupe Aria Spacta SM Jeunes 2025. Ça se passe à la salle Omnisport de Lanzvata. Et puis hors du territoire, en force athlétique, notre vice-champion du monde master Axel Raymond a terminé cet après-midi en tête du classement open de l'Open de Sydney, justement dans la catégorie des 93 kilos. Également en Australie, je rappelle qu'il y a du cyclisme sur piste. Des Calédoniens engagés dans les championnats de l'île continent. Ils sont trois, Hugo Gardin, Enzo Martoreggio et Chad Charret. Et puis en voile, un équipage calédonien est aussi engagé ce week-end au Sailing Champions League de Newcastle sur des supports Elliott 6.
Et on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Maxime.
Bonsoir à tous. Eh bien, cette nuit, sur l'ouest, le ciel deviendra bien étoilé. Ailleurs, le temps sera plus humide avec quelques averses qui pourront remonter jusqu'à Nouméa. Même si sur la pointe sud et l'île des Pins, elles seront plus exposées. Ces pluies qui pourront même être soutenues. Le vent d'est-sud-est mollira entre 10 et 15 nœuds, puis il faiblira encore autour des 5 à 10 nœuds en fin de nuit. Les températures minimales ce soir seront comprises entre 21 et 25 degrés. Et demain matin, sur la façade ouest et la pointe nord, en début de journée ensoleillée. Les nuages issus du relief envahiront progressivement le ciel. Ailleurs, les nuages seront plus nombreux également, en donnant de petites averses, notamment sur le sud-est et aussi sur la pointe sud, où s'installeront quelques averses intensives. Le vent d'est-sud-est se maintiendra entre 10 et 15 nœuds, et enfin localement 5 à 10 nœuds seulement sur la côte est et aussi sur l'ouest.